Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Nous sommes au cœur probablement de la journée la plus chaude de la semaine. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Presque toute la France en alerte orange, Jean-Pierre. La canicule monte d'un cran.
Oui, effectivement, les températures maximales vont souvent dépasser la barre des 40 degrés dans le sud-ouest, le centre et le sud du pays. Prévoyez par exemple 41 degrés à Montauban, Clermont-Ferrand et Nîmes. Partout ailleurs, les maximales seront comprises entre 34 et 40 degrés. Seule la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, l'ouest aquitain, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales seront épargnées avec des valeurs évoluant entre 22 et 33 degrés.
Et une poche de chaleur intense demain dans la vallée du Rhône, nous dit Météo France, puis samedi en région parisienne. Demain, on pourrait aller jusqu'à 45 degrés dans le Gard. Le record absolu de température en France pourrait être battu. Aujourd'hui, circulation différenciée dans les trois plus grandes villes de France. Paris, Petite Couronne, Lyon, Marseille, mais aussi Strasbourg et Annecy. Des centaines d'écoles sont fermées. Jean-Pierre Hameau, encore un mot avec vous. Les températures grimpent en altitude aussi.
Oui, effectivement, on prévoit cet après-midi 30 degrés à Val d'Isère, à 1800 mètres d'altitude. 32 degrés au Grand Bornand, à 1300 mètres d'altitude. Et jusqu'à 37 degrés à Chamonix. Dans le massif central, prévoyez 32 degrés du côté des étables. Ces valeurs sont supérieures aux moyennes de saison d'environ 10 à 15 degrés.
10 à 15.
Et pour finir, nous relevons actuellement 11 degrés à l'Aiguille du Midi, à environ 3845 mètres d'altitude. En temps normal, la température est plutôt voisine de 4 degrés.
Alors comment Météo France mesure-t-elle toutes ces températures? C'est un éclairage que nous vous proposerons dans ce journal avec Béatrice Duguay. Quelle solution à l'étranger pour lutter contre la chaleur? Chronique européenne de Delphine Simon et comparaison avec les États-Unis, avec notre invité qui est à la fois chercheur au CNRS et aux États-Unis. Le Parti Les Républicains prend l'eau de toutes parts. Les discussions de certains élus avec l'extrême droite ont commencé. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Un dîner avant-hier à Paris.
Oui, la digue se fissure. Marion Maréchal Le Pen a dîné avec une dizaine d'élus LR. Certains l'assument publiquement et personne ne demande leur tête. On verra pourquoi.
A tout à l'heure pour les détails. Dans l'actualité encore cette dernière minute, une voire plusieurs attaques en Tunisie ce matin. Il y a plusieurs blessés. Nous retrouverons Maureen Mercier dès le début du journal. Les mauvais chiffres de l'édition l'année dernière en France, chiffre d'affaires en baisse de 4,5%. La littérature générale souffre beaucoup. L'impuissance des Européens et de la France en particulier à réduire les tensions entre Amérique et Iran, cela à la veille du G20. Et puis en France, 25 000 ponts sont dans un état plus que préoccupant.
Moi, je suis élu dans un département où l'année dernière, un matin, le maire a découvert qu'il y avait un pilier du pont qui était parti.
Voilà, nous entendrons plus longuement le sénateur qui a rédigé un rapport sur ces ponts en France. Autre question, peut-on débattre de la PMA au sein de La République En Marche? Question après l'exclusion d'Agnès Thiel. Et puis l'actualité beaucoup plus légère, premier quart de finale, Norvège-Angleterre dans la Coupe du Monde féminine. Portrait de l'entraîneur des Anglaises. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Et nous allons donc tout de suite en Tunisie retrouver notre correspondante Maureen Mercier à propos de cette attaque ou ces plusieurs attaques ce matin à Tunis. Maureen Mercier, que savez-vous pour l'instant?
Oui, alors il est très difficile d'avoir des informations exactes pour l'heure. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une première attaque ici sur l'avenue Bourguiba, l'avenue principale de Tunis, une attaque à la voiture piégée. Un homme aurait pris pour cible des forces de l'ordre qui stationnaient sur cette avenue. Hein, c'est l'avenue principale de Tunis, sans doute la plus sécurisée qui soit, puisque à deux pas siège le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur vient d'envoyer un communiqué, il y aurait 5 blessés. En Tunisie, régulièrement, les forces de l'ordre sont la cible d'attaques terroristes. Des rumeurs courent sur une deuxième attaque, mais pour l'instant, il s'agit vraiment de rumeurs. La plupart des Tunisiens que j'ai interrogés en me rendant jusqu'à l'avenue n'étaient même pas au courant de cette première attaque.
Alors évidemment, les informations évoluent minute par minute. Maureen Mercier nous a envoyé ces précisions juste avant 13h. 13h04, là déjà, une mise à jour de la part du ministère tunisien de l'Intérieur. La deuxième attaque, c'est plus qu'une rumeur, semble-t-il. Un deuxième kamikaze s'est fait exploser à proximité d'un commissariat de police de Tunis. 4 blessés, c'est donc ce que dit le ministère tunisien de l'Intérieur, repris par nos confrères de l'agence Reuters. On suit cela, évidemment. On rappelle Maureen Mercier si nécessaire et nous vous donnerons les dernières informations à propos de ce climat ce matin à Tunis. Tout autre sujet, voici un homme que la canicule rend heureux. Il s'appelle Philippe Bardet. Il est viticulteur, président de la commission interprofessionnelle du vin de Bordeaux.
Une canicule sur une courte durée, à cette période particulière de l'année, c'est littéralement magique. Nous, on dit couramment dans les vignes, on est en train de faire cuire le mildiou. C'est un champignon qui a besoin d'eau pour se développer, de température surtout pas trop chaude. Donc c'est un bienfait de la nature que cette petite période de canicule en ce moment. La nature est bien faite, donc la vigne et les végétaux en général ont pris ce signal de température forte et de risque de manque d'eau. Donc à partir de maintenant, toute l'énergie produite par la vigne, elle va la mettre au service des raisins plutôt qu'au service de la pousse des feuilles et des rameaux.
La canicule vue par les agriculteurs, le ministre de l'Agriculture pense aux animaux, transport interdit pour quelques jours. On ne peut pas les laisser dans des camions ou dans des trains, dit Didier Guillaume. Et à propos de la sécheresse dont sont victimes les éleveurs, il dit réfléchir à donner l'autorisation à l'ensemble des agriculteurs de faucher les jachères pour faire du stockage de luzerne, du fauchage de foin, pour éviter une flambée des prix du fourrage comme l'année dernière. On vient donc d'entendre un homme que la canicule rend heureux. Cela alors que l'inquiétude monte, on le verra dans un instant, l'inquiétude monte et aussi les contraintes de cette chaleur dans notre vie quotidienne. Pour la deuxième journée consécutive, près de 5 millions de véhicules, 60% du parc francilien interdit de circulation à Paris et dans la petite couronne. C'est la circulation différenciée pour lutter contre la pollution à l'ozone favorisée par la chaleur. Seuls sont autorisés les voitures, camions et deux roues les moins polluants. Circulation différenciée aussi à Lyon, Annecy, Strasbourg et pour la première fois, à Marseille, ne peuvent rouler que les véhicules vignette 0 à 3, en principe, car entre ceux qui s'en fichent, ceux qui ne savaient pas, ceux qui n'ont pas eu le temps de s'organiser, il y a des trous dans la raquette. Mais sous le soleil de plomb, la police, Olivier Martoc, a promis d'être cool, pas d'amende.
Monsieur, je vous remets ce petit dépliant informatif. Aujourd'hui, c'est de la prévention.
Très inquiet au coup de sifflet, comme tous les automobilistes arrêtés ce matin, ce conducteur ne savait pas que le système des vignettes Crit Air s'appliquait désormais à Marseille.
Paris, oui, on entend à Paris, mais à Marseille, non, jamais entendu. Et de 2012, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Autant prendre le bus, hein.
Encore plus surpris, les conducteurs de deux roues.
C'est resté sur la voiture, en fait, et pas du tout sur la moto, en fait. Bah, maintenant, je le sais, donc je vais la mettre.
Il y a aussi les chauffeurs de camionnettes qui, pour le coup, ne savent pas comment ils vont faire pour livrer dans l'hypersens.
Diesel, apparemment c'est la bête noire actuellement, donc bon, on va voir. Et l'électrique sur des camions, je fais beaucoup plus que 150 km par jour, je sais pas.
Aucune contravention n'a été mise ce matin pour absence de vignette, et pour cause.
Effectivement, il y en a très peu, je pense que nos concitoyens sont pris un peu au dépourvu.
Rémi Bissonnier commande l'unité motocycliste des Bouches-du-Rhône.
Il y a une démarche là complètement pédagogique. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans les clous en matière de respect de la loi et de la réglementation. Les prochaines fois, nous serons certainement beaucoup moins indulgents.
Et donc, ce sera des amendes dans le futur, 68 euros pour les voitures, 135 pour un poids lourd. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Cette vague de chaleur aura un impact sanitaire significatif, dit le directeur général de la Santé. Les trois jours qui viennent vont être difficiles pour les hôpitaux, reconnaît la ministre de la Santé. Ce jeudi est sans doute le jour le plus chaud au plan national, mais au plan régional, ce sera demain dans la vallée du Rhône, alors que les tout premiers estivants arriveront, puis samedi en région parisienne, des températures de 38 à 41 degrés en région parisienne. Demain, un record absolu de température en France pourrait tomber. Il date de 2003, le 12 août, 44 degrés 1 à Saint-Christol-les-Alès et à Conquérac dans le Gard. Alors depuis lundi, on donne des séries de températures relevées par Météo France, mais bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Comment mesure-t-on ces températures ?
Avec des capteurs, un gros réseau, Radome, ouais. Près de 600 capteurs sur toute la France, répartis de manière homogène, beaucoup près des aéroports, mais aussi en haut de la Tour Eiffel à Paris par exemple. Ces appareils de mesure sont évidemment très précis, ils ne sont installés ni en plein soleil, ni par terre, ni près d'un mur, ni sous les arbres, précise Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.
Les capteurs, justement, on essaye d'éviter qu'ils soient sensibles au rayonnement direct, donc en fait ils sont dans un petit abri avec le capteur d'humidité, un capteur de température et un capteur de pression, ce qui nous permet d'avoir vraiment la température de la masse d'air et qui soit complètement affranchie de tout événement type le passage d'un nuage qui empêche le rayonnement direct du soleil.
C'est ce qu'on appelle la température sous-abri. Ouais. Donc, il y a aussi des capteurs légèrement au-dessus du sol, pas du bitume ni du sable, mais plutôt du gazon, pour fournir ce qu'on appelle l'indice actinothermique, parce que ce sol, chaud ou froid, influence la température globale. À côté des pros, il y a tout un réseau de bénévoles passionnés et dotés d'un abri par Météo France.
Ils ont un thermomètre à minimal, un thermomètre à maximal et puis un pluviomètre. Et tous les matins, ils ont la tâche de relever ces mesures, de les noter. Et une fois par mois, ils nous les envoient et on a notre service climatologie qui va répertorier toutes ces données amateurs, ce qui nous permet d'avoir une base de données climatologique bien plus importante, très intéressante pour nous en termes de climatologie et de mémoire du climat.
Voilà, et de faire par exemple des moyennes saisonnières. Les températures les plus basses interviennent au lever du jour ou dans l'heure qui suit. Les plus élevées en cours d'après-midi. après-midi. En ville, c'est généralement en fin d'après-midi parce que la chaleur s'y accumule.
Alors, température les plus basses au lever du jour. Ce matin, à Dourgne, au lever du jour dans le Tarn, il faisait 32 degrés 1. C'est un record toujours au lever du jour. Même sur l'île d'Oléron, il fait chaud, presque 25 degrés ce matin. Il faudra attendre mardi, selon Météo France, pour voir les températures retomber réellement. Mais elles resteront même mardi au-dessus des normales saisonnières. Autre contrainte de notre vie quotidienne, les écoles fermées, sans doute plusieurs centaines aujourd'hui en région parisienne, dans l'Est, le Var, le Vaucluse. Dans la très grande majorité des cas, un service d'accueil est tout de même organisé. Globalement, la plupart des écoles conseillent aux parents de garder leur enfant, sinon elles sont ouvertes tout de même. Elles ne font pas cours, mais elles sont ouvertes. Et puis la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, souhaite qu'un congé canicule soit mis en place pour les parents dont les enfants ne peuvent pas rester à l'école. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Comment ça se passe ailleurs en Europe, votre chronique chaque jeudi dans ce journal de 13h? Comment se préserve-t-on de la chaleur ailleurs en Europe? C'est la semaine de l'enfer pour la télévision espagnole d'abord.
Oui, c'est ça. Le seuil de canicule n'est pas le même partout. Alors, j'ai posé la question à nos prévisionnistes de Météo France. Ça varie d'un pays à l'autre. En France, l'alerte est déclenchée par les services sanitaires au bout de 3 jours et 3 nuits consécutives de forte chaleur. Mais les seuils varient d'un département à l'autre en fonction de la fatigue liée à la douceur nocturne. À Lille, on souffre plus vite de la chaleur qu'à Nice. Même raisonnement chez nos voisins. En Belgique, on parle de canicule dès que la température dépasse 25 degrés pendant 5 jours, dont 3 jours à plus de 30 degrés. En Espagne, le seuil varie d'une province à l'autre. Il y a un risque dès 32 degrés à Cadix, au bord de la mer, mais à Cordoue, au milieu des terres, c'est plutôt 40 degrés.
Quelles mesures chez nos voisins ?
Eh bien, c'est en Suisse, en Croatie et au Pays Basque espagnol que le niveau d'alerte est le plus élevé aujourd'hui en Europe. On dépasse les 35 degrés dans les Alpes et le Jura suisse. Une ambiance quasi tropicale. Alors, les mesures prises, eh bien, ce sont des conseils, des visites aux personnes âgées. À Genève, le défilé de la fête des écoles a été annulé. En Belgique, des robinets d'eau potable ont été installés dans les rues de Liège, de Bruxelles pour venir en aide aux personnes sans domicile fixe. École fermée également hier au Luxembourg. À l'est de l'Allemagne, la vitesse a été limitée sur des tronçons d'autoroute pour cause de chaussées déformées.
C'est inédit en Europe ?
Pas vraiment. Au sud, surtout, 40 degrés, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est tout simplement l'été. Mais ces températures élevées, elles arrivent tout de même assez tôt dans l'année. L'agence météo espagnole a donné l'alerte à cause des risques de feux de forêt. Pour les Espagnols, rien d'inédit. Chaque année, un plan canicule est déclenché durant 4 mois. Ça va de juin à septembre avec des horaires aménagés dans les écoles, dans les entreprises. On commence plus tôt le matin, on finit plus tôt l'après-midi. La plupart des administrations et les banques ferment à 15h.
Est-ce qu'il faut prendre exemple sur nos voisins du sud, Delphine ?
Oui, adapter ses horaires, se reposer au plus chaud de la journée lorsqu'on est moins productif. Même dans les pays du Nord, on commence à y songer. Mais attention, changer de rythme, ça ne veut pas dire travailler moins. Si on regarde le nombre d'heures travaillées en moyenne dans l'Union européenne, les Français travaillent 40 heures par semaine, les Allemands 41 et les Grecs 44 heures par semaine.
Sur franceinter.fr, on retrouve votre chronique européenne du jeudi dans ce journal de 13h. Merci Delphine Simon. Et continuons de regarder ailleurs, à l'étranger, voir s'il y a de bonnes idées à prendre, notamment pour refroidir nos villes. L'invité de ce journal est Roland Pélinck. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Chercheur au laboratoire Sciences des matériaux pour l'énergie et l'environnement entre le CNRS en France et le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Et la comparaison Europe-Amérique est intéressante. Une petite question bord cadre concernant vos compétences de recherche précises, monsieur Pélinck. Est-ce que ça vous aiderait, vous les chercheurs, est-ce que ça aiderait les architectes, les urbanistes, si on commençait par enlever beaucoup de voitures des villes pour réduire la température ?
Ah bah effectivement, enfin, sur l'impact, j'allais dire, direct sur la température du jour, effectivement, peut-être qu'enlever des moteurs à combustion, ça peut être une bonne idée. Enfin, je pense que l'histoire des, enfin, les moteurs à combustion au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt une histoire de pollution chimique. Mmh. On parle de couches d'ozone, des choses comme ça, effectivement. Mais ça n'a pas l'impact, je veux dire, immédiat sur le fait qu'il fasse très chaud dans les villes, etc.
Quoi. Alors, allons directement sur les villes. On a appris tous en géographie que les villes américaines avaient un modèle différent. Ce sont des villes beaucoup plus quadrillées, beaucoup plus droites, pas des centres-villes un peu tordus comme chez nous. Est-ce qu'il y a un meilleur modèle pour préserver la fraîcheur?
Alors effectivement, on a montré dans nos travaux au laboratoire mixte, donc CNRS-MIT, ex-Marseille Université, que une ville désordonnée de type... Alors pour le coup, pas toutes les villes américaines sont sur réseau, mais une ville comme Boston, qui est une ville à l'européenne, c'est-à-dire pas organisée, en fait, gardait moins la chaleur qu'une ville très organisée, quadrillée, comme vous disiez, là, comme Chicago par exemple. Ouais.
Pour les quartiers qui ne sont pas encore construits, on voit ce qu'on peut faire. Pour l'existant, qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer les choses ?
Alors, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est un conseil d'urbaniste, c'est-à-dire pour le maire, c'est de dire, pour un nouveau quartier, bah, pensez à mettre un petit peu de désordre local,
oui.
C'est-à-dire un petit peu de désordre entre les bâtiments, dans leur agencement, pour pas rester sur réseau, justement.
Oui.
Et puis pour l'existant, on va pas démonter Paris, parce qu'il est très beau par ailleurs, ou ni Marseille.
Oui.
La seule solution, là, pour le coup, c'est la science des matériaux dits de construction, comme le béton, le ciment, mais aussi l'asphalte, mais aussi les aciers, mais aussi les verres.
Ah.
Et donc, il s'agirait d'améliorer leur propriété. Par exemple, par rapport aux échanges thermiques.
Alors justement, on entend beaucoup en ce moment, Monsieur Pellin, qu'il faut enlever le bitume, enlever le béton, verdir les villes. Est-ce jouable ? Est-ce que ça aurait un fort impact ? Est-ce que c'est une bonne idée, en résumé ?
Alors en résumé, alors verdir une ville, effectivement, en fait, je veux dire que la recette pour la chaleur, d'accord, par exemple, mais également on a montré que c'était un peu la même recette pour les résistances au vent d'ouragan, de style ouragan,
oui.
En fait, c'est de mettre un peu de désordre dans les villes, ça aide, ça permet d'avoir un flux plus homogène d'air, par exemple. Ceci dit, après, pour revenir au cas du béton, en fait, ou du ciment, c'est
oui.
Ou de l'asphalte, c'est qu'on n'a pas grand-chose d'autre, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de construction, au jour d'aujourd'hui, le béton, par sa magie, c'est-à-dire qu'il passe de l'état liquide à l'état de pierre de synthèse en 10 heures, c'est ce qui abrite, une grande partie de l'humanité, et c'est pour cette bonne raison-là, en plus du coût, qui est vraiment pas cher, quoi. Donc du coup, on fait avec ce qu'on a, et j'aime dire que le béton, c'est ce qu'on fait le plus sur Terre.
Oui.
D'un côté, chaque année, on fait une tonne de béton par habitant, en fait, sur Terre, donc c'est beaucoup, et j'allais dire que quelque part, on n'a pas trop le choix, mais en même temps, le béton, parce que le ciment, qui est la colle du béton,
oui.
C'est aussi un bad guy, pour parler anglais, dans le sens où, pour chaque tonne de ciment fabriqué, on fait en gros une tonne de CO2.
Ouais, le bilan carbone est désastreux.
L'utilité, on en a besoin, ouais. En même temps, il y a un impact effectivement environnemental fort. Quoi.
Merci, Monsieur Pellin, d'avoir répondu à nos questions et pour ce coup d'œil, notamment aux États-Unis. Sachez qu'au Royaume-Uni, eh bien, le pays inscrit son objectif de neutralité carbone d'ici en 2050 dans une loi qui entre en vigueur aujourd'hui même. C'est également inscrit en France dans le projet de loi climat-énergie actuellement en débat à l'Assemblée. Ce texte aurait pu aussi contenir des mesures offensives contre les passoires thermiques. Ce ne sera pas le cas. Le gouvernement repousse l'obligation de travaux à 2023 pour les logements les plus mal isolés, catégorie F et G, et même à 2028 pour d'éventuelles sanctions. Il y a en France un grand nombre de ponts dans un état préoccupant. 25 000 présentent un risque réel. C'est le constat du sénateur centriste de l'Eure, Hervé Maurey. Il préside la mission d'information dédiée à la sécurité des ponts. Il publie un rapport sur le sujet. Il appelle à un plan Marshall des ponts en France.
L'État a reconnu lui-même que 7% de ces ponts, 7% de ces ponts, présentaient un risque d'effondrement. Régulièrement, il y a des ponts qui sont fermés parce qu'ils ne sont plus en état d'être utilisés, ou des ponts sur lesquels se produisent des incidents plus que sérieux. Moi, je suis élu dans un département où l'année dernière, un matin, le maire a découvert qu'il y avait un pilier du pont qui était parti, sans qu'il y ait eu jusque-là la moindre inquiétude. Si on prend les ponts relevant de l'État, les experts considèrent qu'il faudrait y consacrer à peu près 110 millions par an en termes d'entretien, et on y consacre à peine 45 millions. Sur les ponts relevant des départements et des communes, la situation est encore pire. Et puis, on a des méthodes pour évaluer l'état des ponts, et puis des moyens humains et techniques qui pourraient largement être améliorés.
L'homéopathie ne doit plus être remboursée par la sécurité sociale. C'est selon le journal Libération l'avis très attendu de la Haute Autorité de Santé. L'efficacité de l'homéopathie n'est pas suffisamment prouvée. Il revient maintenant à la ministre Agnès Buzyn de trancher, remboursement ou pas. Cela peut attendre quelques jours, cette décision, dit-elle. Ce matin, le cours de l'action du groupe Boiron, l'un des grands noms de l'homéopathie, a été suspendu à la Bourse de Paris. La débandade a bel et bien commencé à droite chez LR, les Républicains. Il y a ceux qui s'étaient éloignés avant les européennes, Bertrand, Raffarin, Juppé, ceux qui ont quitté le navire après la défaite, Pécresse, et ceux qui commencent à discuter avec l'extrême droite. Maxence Lambrecq, vous nous le disiez en titre, une quinzaine d'élus LR ont dîné mardi à Paris avec Marion Maréchal Le Pen.
Oui, et le plus marquant, c'est que trois d'entre eux l'assument. Ils n'ont plus peur de dire qu'ils discutent avec la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Il s'agit du député Xavier Breton, du sénateur Sébastien Meurant, du conseiller régional ex-candidat aux européennes Sébastien Pilar. Et ce midi, chez LR, personne ne demande leur leur tête. Alors qu'en octobre dernier, une simple interview du même Sébastien Meurant avait provoqué un tollé à droite, il appelait alors au dialogue avec le RN. Mais 9 mois ont passé et tout a changé. La droite a perdu la moitié de son électorat, le chef Wauquiez s'en est allé, le parti se recentre et Marion Maréchal réapparaît. Ses amis rêvaient de ce dîner depuis des mois. Le déclic a donc eu lieu. Marion Maréchal travaille aussi son réseau chez les collaborateurs parlementaires LR. Elle en a rencontré une vingtaine la semaine dernière et elle compte sur eux pour décomplexer ceux qui hésitent encore à dialoguer avec elle. On a le temps devant nous, se réjouit un de ses amis, sous-entendu jusqu'en 2022. Le temps aussi pour accorder leur violon sur les dossiers économiques. Dans ce petit groupe, il y a de vrais libéraux, favorables par exemple à la privatisation d'Aéroports de Paris, alors que Marion Maréchal Le Pen rejoint sur ce dossier sa tante et s'y oppose. On est donc loin d'une alliance programmatique en préparation, mais l'ancienne députée du Vaucluse avance ses pions, déstabilise l'appareil et réalise ce que le RN n'arrive pas encore à faire. D'autres dîners devraient avoir lieu après l'été. Marion Maréchal fait donc tout pour réunir les conditions de son éventuel retour.
Dans la majorité, La République En Marche parviendra-t-elle à organiser un débat serein sur la PMA. Hier, la députée Agnès Thil, farouchement opposée à la PMA, a été virée du groupe pour des propos jugés polémiques et pernicieux. C'est un délit d'opinion, dit-elle. De manière moins affichée, d'autres députés de la majorité ont des doutes sur la pertinence de la réforme et ils espèrent pouvoir en faire part, François Rosy.
Députée La République En Marche dans l'heure, Marie-Tamar Elvérague admet se questionner sur la PMA pour toutes.
Il y avait pour moi un fondement qui était l'amour entre deux personnes. Pour moi, c'est fondamental que une femme seule ait ce désir profond d'enfant, je le comprends, vraiment je le conçois, mais que parce qu'elle a ce désir, il suffit à donner la possibilité de porter un enfant, là ça m'interpelle.
Pour autant, sa voix est entendue au sein du groupe, dit-elle, position qui tranche avec celle d'Agnès Thil qui dénonçait hier un parti de la pensée unique. Autre député LAREM a à se questionner, Jean-François Mbaye, complètement ouvert à l'extension de la PMA pour toutes, il veut que le texte réponde à certains cas particuliers.
On l'ouvre à une femme qui malheureusement va perdre son conjoint. Qu'est-ce qu'on répond à cette femme? Est-ce qu'on lui dit, ah ben non, vous ne pouvez pas utiliser les gamètes de votre défunt mari pour faire une procréation médicalement assistée. Il y a un vide juridique, il faut qu'on le lève.
Jean-François Mbaye pilotera dès début juillet des sessions d'échange au sein du groupe parlementaire de la majorité. À ses côtés, le député Thomas Meynier, qui espère par cette initiative lever les doutes de certains collègues.
Pouvoir se dire les choses calmement, que chacun puisse donner ses convictions, ses questions, que ce soit aussi un espace d'information. Ça reste des sujets très très techniques.
Voilà l'objectif du parti, libérer la parole en interne pour affiner la ligne et ainsi empêcher des communications discordantes et l'hystérisation du débat qui pourrait en découler.
L'actualité internationale et comme promis, les dernières informations à propos de ces attaques en Tunisie. Je vous donne ce que nous raconte l'agence Reuters qui cite le ministère tunisien de l'Intérieur. Il y a bien eu 2 attentats suicides à Tunis ce matin selon le ministère tunisien de l'Intérieur. D'abord, 2 policiers et 3 civils ont été blessés dans un attentat qui a visé un véhicule de la police rue Charles de Gaulle. Et puis après, un autre kamikaze a fait exploser sa charge près d'un commissariat de police dans le quartier d'Al-Karjani. Et il a fait là 4 blessés. Donc cela fait un total de 9 blessés. Bilan évidemment provisoire selon Reuters et le ministère tunisien de l'Intérieur. L'Iran va finir par passer la ligne rouge. Depuis que les États-Unis sont sortis de l'accord sur le nucléaire, Téhéran reconstitue progressivement ses stocks d'uranium enrichi, celui qui permet de fabriquer la bombe. Ils sont toujours sous la limite fixée par l'accord de 2015, mais ils s'en rapprochent, dit ce matin l'Agence internationale de l'énergie atomique. À partir de demain, les chefs d'État et de gouvernement des 20 plus grandes puissances du monde sont réunis à Osaka, au Japon. Emmanuel Macron dit vouloir faire le maximum dans ce cadre pour que personne ne commette l'irréparable, mais lui et les autres Européens ont-ils réellement une influence dans ce dossier, Christian Chesneau? La réponse est non.
Tout faire pour éviter l'escalade militaire, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron. Mais la France et au-delà les Européens sont-ils les mieux placés pour éteindre l'incendie? Au jeu des Iraniens, Paris, Berlin et Londres, signataires de l'accord nucléaire de 2015, ont perdu beaucoup de leur crédibilité. Ils ont répété aux responsables iraniens qu'un mécanisme commercial allait permettre de contourner les sanctions américaines, l'Iran devant faire preuve de patience, que les flux commerciaux pourraient être préservés, au moins partiellement. Or, après plus d'un an de promesses répétées, les Européens ont été incapables de mettre en place une seule ligne de crédit, même symbolique, pour nous vendre des médicaments, constate amèrement un diplomate iranien qui poursuit « Nous avons misé sur l'Europe et aujourd'hui, c'est une déception totale pour nous ». À Téhéran, le sentiment général est que les Français, les Britanniques et les Allemands ont capitulé face aux pressions des États-Unis, sans parler de l'Italie et de la Grèce qui disposaient d'exemptions américaines pour importer du pétrole iranien et qui aujourd'hui n'achètent plus une seule goutte de brut venant de la République islamique depuis les dernières sanctions imposées par Washington.
Et avant ce G20, question de plus en plus prégnante sur la santé d'Angela Merkel. La chancelière à nouveau prise de tremblement ce matin lors d'une cérémonie officielle à Berlin. En France, les chiffres de l'édition l'année dernière, 2018, ne sont pas bons. Moins 4,5% tout secteur confondu pour le chiffre d'affaires du secteur. Et Ilana Mourioussef, la littérature générale souffre particulièrement.
En 2017, on avait dit ça baisse, mais c'est normal, c'est une année électorale, les Français ont autre chose à penser. 2018, hélas, n'a pas été meilleur. Le secteur de l'édition accuse une baisse de 4,5% de son chiffre d'affaires. Et alors que la littérature jeunesse, la BD, les sciences humaines et les documents d'actualité se portent bien, la littérature générale, elle, est à la peine. Pierre Dutilleul, directeur général du Syndicat national de l'édition.
En littérature générale, ce que lisent la majorité des Français, on observe une baisse de 5,7%. C'est énorme. Ça s'explique par la concurrence vis-à-vis du livre. C'est l'édition et la lecture face aux séries. J'ai coutume de dire qu'on a toujours le temps de faire les choses que l'on veut faire. La lecture n'est pas, pour la majorité des Français, aujourd'hui, la chose qu'ils ont envie de faire en priorité.
2019, heureusement, s'annonce un peu mieux. Depuis avril-mai, les ventes sont meilleures. Un Astérix doit sortir en octobre et on pourra compter sur un renouvellement des manuels scolaires, même si cela ne résout pas le problème de fond.
En sport, avant France-États-Unis, demain soir, le premier quart de finale de la Coupe du Monde féminine aujourd'hui. Norvège-Angleterre à 21h au Havre. Les Anglaises, entraînées par un ancien grand nom du foot masculin, Phil Neville. Portrait, Cécilia Arbonin.
C'est en devenant l'adjoint de son frère Gary, en 2015, que Phil Neville découvre le métier d'entraîneur au FC Valence, en Espagne. 3 ans plus tard, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale féminine après une belle carrière au poste de défenseur. Son compatriote, le journaliste sportif Darren Tullett.
Phil Neville en Angleterre est très connu parce qu'il a été formé dans le grand club de Manchester United. Et il a joué dans l'équipe où il y avait Eric Cantona, David Beckham et toutes les autres stars. Son papa était joueur de cricket professionnel. Sa sœur jumelle s'appelle Tracy et Tracy était capitaine de l'équipe d'Angleterre de netball, netball étant une version de basket en Angleterre. Donc c'est une famille très sportive.
Le mois dernier, avant le coup d'envoi du tournoi en France, Phil Neville prédisait une exposition médiatique sans précédent pour les joueuses, toutes nations confondues.
Quand j'étais jeune, j'étais fan de Steffi Graf et Boris Becker à Wimbledon. Cette Coupe du Monde sera la plus importante de tous les temps, suivie par des millions et des millions de personnes, parce que vous êtes forcément inspiré par les sportifs qui vous épatent.
Le coach Neville en est convaincu. Son équipe des Trois Lions va faire naître des vocations. Sa meilleure performance, c'est une médaille de bronze au Mondial 2015.
Le coup d'envoi de cette Angleterre-Norvège, c'est à 21h.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Pierre Hameau.
Soleil et chaleur resteront au programme de cet après-midi. La canicule va monter d'un cran. D'ailleurs, Météo France a placé 78 départements en vigilance orange avec des maximales comprises entre 34 et 41 degrés. Prévoyez 34 dans la capitale, 35 à Nancy, 36 à Orléans, 38 à Tours, Dijon et Toulon, 39 à Lyon et Marseille, 40 à La Rochelle et Toulouse, on ira jusqu'à 41 degrés à Clermont-Ferrand et Nîmes. Toutes ces températures sont naturellement relevées sous abri. Ça sera plus respirable en Bretagne ainsi qu'en Normandie, du côté des Hauts-de-France, à l'ouest de l'Aquitaine, et des Hautes-Pyrénées aux Pyrénées-Orientales. Prévoyez 22 degrés à Cherbourg, 25 à Caen, 27 à Lille, 32 à Perpignan et 34 à Brest. La canicule va se maintenir jusqu'à samedi, la baisse des températures va s'amorcer par le nord-ouest dimanche.